I watched sea beams glitter in the dark.
Maybe one of us saw too much. You're safer here than any place else.
Now relax. Close your eyes.
Just listen.
Bonjour et bienvenue dans Année Lumière, l'émission qui parle de cinéma une année à la fois. Moi c'est Thibaut et on se retrouve comme d'habitude pour discuter d'une année de ciné en particulier avec comme toujours un invité. Ce mois-ci l'invité est corse, il est chargé de développement dans une boîte de prod télé. C'est Raphaël Blénès Ferrari, salut Raphaël.
Salut Thibaut, bonjour à tous.
Comment ça va ?
Ça va, ça va.
Bon bah merci d'avoir accepté mon invitation de participer donc à cet épisode 4 d'Année Lumière. Après plusieurs épisodes à parler d'années plutôt lointaines, on va discuter pour une fois d'un millésime récent. C'est d'ailleurs le premier épisode d'Année Lumière consacré à une année du 21e siècle. Bref, aujourd'hui, on discute de 2003. On écoutait ça en 2003, Crazy in Love, Jay-Z, ouais. Beyoncé, et ouais, ça ne rajeunit pas.
C'est dur, on sent le poids des années.
C'est un petit peu dur, effectivement. Mais pas que en 2003, pour resituer un petit peu, pour mettre du contexte comme d'habitude. Le 1er février, c'est la désintégration malheureuse de la navette Columbia. Au décollage, le 20 mars, c'est le début de la seconde guerre du Golfe, la guerre d'Irak. L'année aussi, 2003, de la canicule en Europe. Tiens, comme c'est étrange vu qu'on enregistre ça exactement la semaine où il va faire 38, 39, 40 degrés en France. Jolie coïncidence, une canicule qui, en 2003, aura fait quand même 70 000 morts en Europe. Bref, c'est aussi 2003, enfin, la création de la plateforme de vente en ligne iTunes, où pour la première fois, on pouvait effectivement aller sur une plateforme qui nous proposait des achats de titres à l'unité, effectivement, pour 99 centimes, etc., etc. C'était le début d'une nouvelle ère dans laquelle on est encore aujourd'hui. Mais 2003, c'est encore plein de choses, et c'est du cinéma, bien sûr. Et quand on parle de cinéma, bah écoutez, sans plus attendre, je vous propose de lancer le premier thème de cet épisode 4 d'Année Lumière. Everything that has a beginning has an end. I see the end coming. I see the darkness spreading. I see death.
Mr. Anderson, welcome back. We missed you.
It ends tonight.
Matrix, Pirates des Caraïbes, Kill Bill, Le Seigneur des Anneaux, plein de franchises, plein de films qui vont, dans cette année 2003, mettre en place repenser un certain rapport à l'événement cinéma, en tout cas un certain rapport aux attentes du spectateur. Ce que vous venez d'entendre, c'est le trailer de Matrix 3 qui a été diffusé après la scène, après le générique de Matrix 2. Moi, je sais que personnellement, je m'en souviens parce que je me souviens d'un petit cinéma en Savoie où on venait de sortir de Matrix 2, donc Matrix Reloaded, en mai 2003, déjà. Et qui était déjà un événement parce que c'était la suite de Matrix, etc. Et on nous avait dit, attendez après le générique, vous allez voir les premières images de Matrix Révolution, Matrix 3, qui allait sortir en novembre, donc 6 mois
très
plus tard.
Très peu de temps après.
Effectivement, en 2003, on est à une époque où il n'y a pas forcément Internet et il n'y a pas la possibilité d'aller sur Internet et d'avoir le trailer ou les premières images. Donc, pour revoir ces premières images de Matrix 3, il fallait être dans la salle. Toi, est-ce que tu te souviens effectivement de ta projection de Matrix 2 ? Est-ce que tu te souviens avoir attendu après le générique de fin pour voir ces premières images ?
Disons que je m'en souviens assez bien, étant donné que dès le départ, on nous a annoncé que le 2 et le 3 s'enchaînaient et qu'on ne devrait pas forcément attendre longtemps avant d'avoir la suite de Matrix 2.
Mais est-ce qu'on t'avait dit, va attendre jusqu'à la fin de la générique ?
Je pense qu'il fallait quand même être un peu initié pour le savoir, il fallait lire un peu. Parce que tout le monde ne l'a pas su à l'époque, mais ça s'est su très vite parce qu'il y avait un énorme bouche à oreille à l'époque, donc ça s'est su quand même.
Et c'est vrai que moi je me souviens d'avoir eu des potes qui étaient allés voir plusieurs fois Matrix 2 pour pouvoir avoir ces 2 minutes de bande-annonce de Matrix 3 exclusive à la fin du générique. Pirates des Caraïbes, de la même façon, à la fin du générique de fin, on va avoir une scène avec un singe et qui va annoncer un épisode 2, Pirates des Caraïbes 2, qui va sortir en 2005, je crois. Et on a parlé du Seigneur des Anneaux, qui, sans jouer effectivement sur cette façon, cette manière de mettre des scènes post-génériques, avec le retour du roi en 2003, arrive à, on va dire, à la conclusion d'un rendez-vous qu'il avait pris avec le spectateur, de dire, bah regardez, à chaque fois que vous venez en décembre, on va continuer l'aventure de Frodon et de Sam, etc. Et qui avait peut-être effectivement commencé à mettre en place ce nouveau rapport au spectateur dont on parle là.
C'est exactement ça. On avait vraiment rendez-vous en décembre pour voir Le Seigneur des Anneaux de 2001 à 2003. Alors, ouais, on le savait.
Ça a été la création du rendez-vous. Voilà. La Matrice le fait avec sa bande-annonce. Pirates des Caraïbes le fait avec sa bande-annonce. On en a parlé un petit peu hors micro avec Raphaël, une sorte de début de, peut-être de sérialisation, où effectivement cette prise de rendez-vous avec le spectateur, elle va de fait avec une sérialisation, qu'un univers et qu'une aventure va être scindée en plusieurs épisodes.
L'idée que, en fait, un film n'est pas fini. C'est-à-dire que pour voir la fin du film, il faut voir le film suivant et ainsi de suite.
Mais du coup, est-ce que c'est de la fidélisation, de l'événementialisation ? Parce que là, effectivement, on parle de 2003, donc c'était il y a 16 ans. Et là, si vous êtes en train d'écouter ce premier thème avec nous, vous dites, mais ah, c'est marrant parce que ça me fait penser
ça
à quelque chose.
Un petit peu
ça me rappelle quelque chose qui est assez présent actuellement. Moi, j'aurais une question toute bête. Est-ce que cette année 2003, avec toutes ces franchises et tous ces films, n'est pas précurseur d'un modèle, du modèle du Marvel Cinematic Universe qui va finalement débuter 5 ans plus tard en 2008 avec Iron Man et qui va graver dans le marbre ce principe de rester après le générique et ce principe de voir revenir quelques mois plus tard.
Il y a cette idée que voilà, le film est pris comme une sorte de, comme une série télé où aller voir l'épisode suivant pour connaître la suite ou la fin du film,
ouais,
il y a cette idée là
ouais.
Mais contrairement à Marvel, il y a quand même une idée aussi, disons que c'est quand même une vision d'un réalisateur à chaque fois.
D'un auteur. Par exemple,
les Wachowski pour Matrix. Le Seigneur des Anneaux, c'est quand même le
Peter
projet
Jackson.
Somme de Peter Jackson. Voilà. C'est son projet à lui.
Et qui s'achève donc en 2003 avec le Retour du Roi. Et toi, tu rajoutes cette notion d'auteur qui n'y a pas forcément chez Marvel, par exemple.
Enfin, disons que c'est un peu compliqué étant donné que chez Marvel, c'est peut-être une vision d'un producteur. Enfin, on peut dire que c'est la vision de Feige. Enfin, voilà. Là, en l'occurrence, c'est quand même des réalisateurs. Parfois, des gens qui vont se révéler, comme Peter Jackson, puisque Peter Jackson, il faut le rappeler aux auditeurs qui ne le savent peut-être pas, mais c'était quand même quelqu'un d'assez underground, faut le dire. Parfois, des réalisateurs confirmés qui ont une certaine aura.
Kill Bill,
voilà, Kill Bill, qui est Tarantino, qui est porté par Tarantino.
Alors, c'est particulier, Kill Bill, moi je l'ai inclus dans le corpus parce que Tarantino le pense comme un seul et même film, et pour des raisons d'exploitation, il l'a scindé en deux, mais c'est le même principe.
Il a absolument raison, c'est un seul et même film.
Ce qui est
film.
Intéressant, c'est qu'effectivement, Kill Bill 1 sort en octobre 2003, et Kill Bill 2 va sortir en avril 2004. Il y a encore cette prise de rendez-vous. Moi, j'aimerais juste remettre un extrait sonore, histoire de ponctuer ce thème-là, avant de te poser une dernière question. J'aimais beaucoup trop cet extrait sonore, donc je voulais absolument le mettre, mais pour ceux qui n'ont pas vu Kill Bill, c'est un peu spoiler, donc je vous invite
pas
à ne pas écouter les 30 prochaines secondes de ce podcast, et de revenir très très vite.
One more thing, Sophie. Is she aware, her daughter is still alive.
Quand vous arriviez à la fin de Kill Bill de Quentin Tarantino, Kill Bill volume 1, vous arriviez sur ça, un énorme cliffhanger, c'est le dernier mot de Bill qui nous donnait rendez-vous encore une fois en avril 2004 pour voir la fin des aventures de La Mariée. Quel sublime film, je l'ai revu pour préparer l'émission et c'est encore, je crois que c'est un de mes Tarantino préférés. Qui là n'a pas de scène effectivement post-générique, mais qui, encore une fois, comme dans cette bonne vieille technique télévisuelle, nous laisse en suspens sur ce cliffhanger avant de balancer la musique et les crédits. Donc c'est encore pour reprendre ça. Moi, j'allais te poser la question de est-ce que c'est une sorte de fidélisation forcée du spectateur, genre, ouais, regardez, l'histoire ne se termine pas là et vous devez revenir la fois prochaine pour venir, ou est-ce que c'est une façon aussi de créer l'événement? Et en fait, là, tu es en train de me dire, non, c'est la vision d'un auteur ou la vision d'auteur bien définie, et en fait, qui ont choisi de faire plusieurs films parce qu'en un film ça ne tenait pas et que du coup ils ont créé leur aventure en plusieurs films en invitant le spectateur à un rendez-vous au prochain, contrairement à Marvel où effectivement c'est la
stratégie du dealer de drogue, je donne un petit peu de mon héroïne
et l'histoire n'est pas,
et j'attends que les gens viennent pour en redemander de plus,
mais l'histoire n'est pas close effectivement.
Elle n'est jamais close en fait, elle est, on peut pas, enfin, est-ce que Est-ce que ça finira un jour? On ne sait pas vraiment. Disons qu'on ne peut pas faire des généralités sur tous ces films-là, parce qu'on n'est pas face à des films qui sont pensés tous de la même manière. Le Seigneur des Anneaux, c'est quand même une œuvre immense, d'un auteur immense. Ils n'avaient pas d'autre choix que de couper de faire trois films.
Chaque film est bien différent, mais est-ce que le fait que tous ces films-là n'a pas commencé à mettre la première pierre de ce qu'allait être la gestion de l'expérience spectateur pour les franchises et pour les films de blockbuster au 21e siècle, qui va finalement arriver avec le MCU quelques années plus tard? Est-ce que ça n'a pas mis la première pierre d'une nouvelle expérience de spectateur?
Je pense que maintenant on a suffisamment de recul pour le dire. Je pense que, étant donné que ce modèle économique a énormément fonctionné, parce que là on ne parle que de films qui ont extrêmement bien marché, ce sont des énormes succès, donc une formule qui marche comme ça, forcément à Hollywood, elle est copiée. Elle est reprise. Faire trois films, ça permettait de ramener plus d'argent que faire qu'un seul film. Voilà, Star Wars l'a montré aussi en son temps. C'est évident que ça a donné des idées par la suite. Enfin, c'est un modèle qui aujourd'hui est classique.
C'est la norme
aujourd'hui. Tu as exactement raison. Un blockbuster ne se conçoit pas comme un seul film. C'est des franchises. On ne pense plus à un film. On pense aussi aux deux suivants, aux trois suivants qui vont arriver après, quoi.
Oui, là, effectivement, on parle de scène post-générique, on parle de scène post-crédit. Ça n'a pas été les premiers films à faire ça, bien sûr.
Retour vers le futur.
Retour vers le futur. Alors, souvenez-vous, à la fin de Retour à la Future 2, on avait la bande-annonce de Retour à la Future 3 déjà. Et même James Bond, à la fin du générique de James Bond, on annonçait James Bond reviendra dans... Et ça, d'ailleurs, ça a fait quelques petites coquilles dans la saga, parce qu'ils annonçaient un film, mais en fait, c'était pas celui-là, etc., etc. Mais voilà, ce principe de donner rendez-vous aux spectateurs avait déjà été fait au passé. Et là, on a plein de franchises qui se croisent à la même année. Ce rendez-vous de post-crédit, post-générique, maintenant, il est usé, il est abusé. Il est même devenu, comme tu le disais, quelque chose d'une évidence.
C'est un gimmick.
Même fatigant. En fait, les histoires ne se terminent plus. Est-ce que ce modèle-là, il n'a pas des limites? Est-ce qu'il déjoue pas un peu les attentes du spectateur? Parce qu'on lui dit, en fait, ce que tu viens de regarder, c'est pas la fin. Est-ce que le public va pas être lassé?
On va s'en rendre compte dans les années prochaines. On va voir comment, par exemple, Marvel va réussir son après-Endgame. Fatalement, tout modèle a une fin. Le blockbuster de l'été n'a plus la forme qu'il avait dans certaines années. Puis depuis, justement, les débuts des années 2000, on a eu ce blockbuster d'hiver qui n'existait pas forcément avant.
C'est-à-dire blockbuster d'hiver.
Cette fidélisation avec Le Seigneur des Anneaux. Tous les hivers, on savait qu'il y avait ce blockbuster qui arrivait. Ouais. Aujourd'hui, on l'a avec Star Wars. Donc on a ce modèle-là.
Prise de rendez-vous. Mais après, c'est une prise de rendez-vous pour les gens qui sont... qui sont connaisseurs, parce que les gens qui vont voir le cinéma, ils savent pas forcément... nous, on est au courant parce qu'on aime le cinéma, donc on sait ce qui va arriver l'année prochaine et dans 2 ans, dans 3 ans, on connaît les calendriers, mais les gens qui vont au cinéma comme ça, peut-être qu'ils sont pas au fait de cette prise de rendez-vous. Ils apprennent qu'il y a un autre film au moment où ils vont voir le film et où il y a cette scène de post-générique véritablement.
Souvent, ouais.
En fonction du mastodonte Marvel et de comment il va réinventer son modèle, s'il le réinvente, s'ils se disent on va peut-être arrêter de faire des scènes post-crédit, l'industrie risque de changer aussi.
Dans le cinéma, généralement, c'est toujours le gros qui provoque... En fait, c'est la chute du gros qui provoque toujours le changement. Et fatalement, quand ce gros va se casser la gueule, eh ben, fatalement, tous les autres arrêteront de faire comme lui. On en parle beaucoup en plus de ce... surtout avant Endgame, en fait, on avait l'idée que on arrivait à la limite du projet, à une conclusion, et que peut-être que les gens allaient se finir par se lasser de cette sérialisation continuelle, de ces films qui ne sont pas forcément des films.
Est-ce que le changement peut pas venir simplement du spectateur qui va en avoir marre, d'avoir ses attentes déjouées et de dire simplement, effectivement, en fait, nous, on a envie d'autre chose, on a envie d'histoire qui se termine pour de bon, et on a envie de dire au revoir à des gens et de pouvoir avancer et de pas devoir se traîner des gens pendant 10 ans.
C'est l'histoire du verre à moitié plein, à moitié vide. Si fatalement ils échouent, c'est que le spectateur aura dit non au bout d'un moment, et tant mieux. Enfin, c'est toujours le spectateur qui doit dicter au final ce qu'ils vont bouffer comme produit culturel pendant les 15 prochaines années, quoi. Du coup, après, pour être un très gros lecteur de comics moi-même, enfin, c'est un truc qu'utilise le comics toujours, quoi.
Et depuis bien plus longtemps.
Et depuis bien plus longtemps. Et oui, je rappelle que cette année, nous fêtons les 80 ans de Batman. Batman n'est toujours pas fini.
Rien à l'horizon qui pourrait nous amener à changer ce rapport, on va dire, avec le spectateur.
Tant qu'on voit des bons films et que le spectateur y trouve son compte, pourquoi pas? Mais fatalement, un jour ou l'autre, toute chose a une fin. Donc forcément, qu'a amené cette année 2003 va finir par s'estomper et on aura autre chose. peut-être pire, peut-être mieux, et tant mieux.
C'est beau parce que tu dis ça, toute chose a une fin, parce que c'est exactement la tagline de Matrix 3, justement, oui, qui dit tout ce qui a un début a une fin. Ce qui est assez drôle, voilà, c'est qu'on fait ce podcast-là, donc en plus d'être une semaine de canicule, tout comme l'année 2003, on fait ce podcast-là, la même semaine où on apprend que
Matrix 4
est en préparation.
Avec Michael B. Jordan.
Voilà, donc finalement... Ça déjoue un petit
Est-ce
peu
que
notre
les
thématique.
Choses ont vraiment une fin.
Voilà, ça sera encore à voir. C'est quand Matrix 4 va sortir dans quelques années. Une fois qu'on a fait le tour effectivement de cette question, il est temps d'aller de l'autre côté du monde. Car 2003, c'est l'année d'un cinéma en particulier, c'est l'année d'un pays. Bref, le thème numéro 2, on est parti. La musique que vous venez d'entendre s'appelle Cries and Whispers et est issue de la BO du film Old Boy de Park Chan-wook, sorti en Corée en 2003 et qui obtiendra quelques mois plus tard au Festival de Cannes 2004 pour le coup le Grand Prix du jury présidé par Quentin Tarantino, comme quoi tout est lié. Pourquoi on parle de Old Boy de Park Chan-wook dans cette émission et en 2003? Parce que en plus de Old Boy, la même année en 2003, on va avoir le droit à Memories of Murder, qui est un film qui a aussi explosé, qui a été pris au festival, qui a eu plein de prix au festival de Cognac, plein de prix au festival de Saint-Sébastien, plein de prix au festival de Turin. Memories of Murder, réalisé par Bong Joon-ho, et Memories of Murder et Old Boy, donc deux films réalisés par des réalisateurs sud-coréens, et qui vont marquer l'explosion sur la scène internationale de cinéma sud-coréen et d'une génération de cinéastes toute particulière, parce que je ne sais pas si tu t'en souviens toi, moi à l'époque en 2003 effectivement j'avais 14 ans, j'étais fasciné par le cinéma et je vois arriver au cinéma et sur les écrans français ces films là, ces histoires là. Alors Old Boy ça a été une claque internationale, Memories of Murder ça a été aussi un thriller qu'on avait, un polar, un thriller qu'on n'avait jamais vu effectivement auparavant. Pour vous donner une idée, hein, Memories of Murder, ça raconte rapidement l'histoire dans les années 80 d'un policier local qui fait équipe avec un détective pour enquêter sur une série de meurtres et sur un potentiel serial killer.
C'est une histoire vraie au départ.
Voilà, une histoire vraie. Et de l'autre côté, Old Boy, ça raconte aussi une histoire qui prend sa graine dans les années 80 et qui raconte comment un père de famille qui se retrouve enlevé et enfermé du jour au lendemain dans une pièce sans raison apparente, avec seule télé comme fenêtre sur le monde. Et il va apprendre notamment qu'il a été accusé de la mort de sa femme alors qu'il est enfermé. Et il est finalement libéré 15 ans plus tard. Et il va essayer de trouver une raison à pourquoi il était enfermé comme ça, sans raison, pendant 15 ans. Deux films, Old Boy, Memories of Murder, deux réalisateurs, Park Chan-wook et Bong Joon-ho. J'ai envie de te poser tout de suite la question, parce que moi, quand je t'ai parlé effectivement de ce thème de cinéma sud-coréen, toi, tu m'as dit carrément tout de suite, parce que toi, Raphaël, c'est un cinéma que t'aimes particulièrement,
ouais,
qui t'attire particulièrement. Moi, là, en 2003, on voit, on va dire, deux films majeurs de ce cinéma-là qui arrivent sur la scène internationale, qui mettent en lumière un cinéma et un pays qui était peut-être un peu plus en retrait avant, et de deux cinéastes qui viennent de la même génération de cinéastes. Est-ce que, on peut parler, peut-être que tu vas me contredire, mais d'une nouvelle vague du cinéma coréen à ce moment-là, en 2003, qui arrive comme ça dans le...
On peut parler de nouvelle vague dans ce cas-là, puisqu'on a, tu l'as dit, deux cinéastes qui apparaissent à peu près au même moment. Ils ont commencé leur carrière tous les deux dans les années 2000. Park Chan-wook, avec... même s'il avait fait d'autres tentatives un peu avant, mais il est révélé au cinéma avec GSA dans les années 2000, au début des années 2000. Bong Joon-ho avec Barking Dogs, donc aussi la même année en 2000.
Ouais.
Donc tous les deux arrivent la même année, et tous les deux se révèlent aux yeux du monde, au sens large, la même année, donc 2003. Donc, et au-delà de cette...
Une belle coïncidence.
De cette belle coïncidence, il y a aussi des thématiques une formule qui est du cinéma qui est réinventée, surtout par ces cinéastes coréens.
Parce que, du coup, c'est marrant ce que tu dis, parce que tu, effectivement, deux cinéastes, et tu parles de formule, est-ce que cette nouvelle vague du cinéma coréen, elle a des origines, elle a des caractéristiques particulières
Pour repartir à l'origine, il faut savoir que la Corée du Sud, pour les plus jeunes d'entre vous qui ne le savent pas, comme la Corée du Nord était un régime dictatorial et militaire,
dans
les années 80, et ces deux réalisateurs étaient très influencés par le mouvement étudiant qui, en quelque sorte, a mis fin à ce régime dictatorial. Et du coup, ils sont influencés par cette volonté de cette politisation, comme dans tous les...
Un discours
politisé, ouais. Et ce qu'on retrouve dans les nouvelles vagues qui apparaissent plus tôt, mais parce que aussi ce sont des pays différents, c'est-à-dire que le nouvel Hollywood aux États-Unis, c'est un mouvement de cinéastes qui s'exprime en contradiction avec la guerre du Vietnam, avec la violence policière, tout ça.
La
nouvelle vague en France, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on a des jeunes gens qui sont complètement dans ces mouvements étudiants de 68. Et là, aujourd'hui, pourquoi en 2000 en Corée? C'est exactement la même chose. Ce sont des jeunes gens qui ont vécu leur enfance et leur adolescence dans un milieu très fermé, très difficile, donc une dictature militaire, donc forcément aucune liberté d'expression, et donc se révèlent au monde et expriment toute cette violence à travers leurs films.
Est-ce que c'est genre Park Chan-wook, Bong Joon-ho, on peut citer aussi
Kim Ji-won
qui a réalisé Deux Sœurs et Bittersweet Life,
sont de la même génération, c'est vraiment
ces gens-là sont indissociables. Ils se connaissent, ils sont potes.
Oui, ils sortent tous d'une prestigieuse université de cinéma qui s'appelle la CAFA, et du coup, oui, ils se connaissent et ils sont intimement liés.
Le même vivier, le même cercle.
Récemment, j'ai entendu. Voilà, exactement. J'ai entendu d'ailleurs une interview de Song Kang-ho, qui est un acteur commun à ces réalisateurs, qui disaient voilà, ce sont les mêmes, ce sont des humanistes, mais il y a un humaniste pessimiste qui se trouve être Bong Joon-ho, et un humaniste optimiste qui se trouve être Park Chan-wook. Donc en fait, ils ont un peu la même vision du monde, ce sont des humanistes.
Parce que c'est rigolo qu'on, là on en parle parce qu'on est en 2003 et que qu'en faisant l'émission, on se rend compte qu'en 2003, t'as cette éclosion-là de cinéma qui arrive sur la scène mondiale. Et encore une fois, coïncidence heureuse, on se retrouve en 2019 la Palme d'Or est celle décernée à Parasite de Bong Joon-ho, ce même Bong Joon-ho qui a réalisé Memories of Murder et qui va réaliser plus tard The Host, Le Transpersonnage, Mother, Okja, pour n'en citer que quelques-uns, Park Chan-wook qui a entre-temps réalisé
Mademoiselle, Stalker,
tous ces films-là, donc une génération qui a éclos en 2003 et qui arrive en 2019 à une sorte de consécration, on va dire, avec cette Palme d'Or. Tu disais effectivement cette génération, elle vient d'un même vivier, d'une école, la CAFA, elle vient d'un même milieu social, d'une même histoire, parce qu'il y a effectivement cette dictature coréenne dans les années 80, et tu dis qu'il va avoir les mêmes thématiques. On peut parler de thématiques politiques, écologiques, sociales, conscientes. J'ai envie de dire, est-ce que cette génération coréenne, elle répond pas simplement aux enjeux du 21e siècle? Elle donne cet écho à cette problématique du 21e siècle, qui sont des enjeux d'écologie,
égalité sociale.
Voilà. Je sais que Bong Joon-ho, quand j'avais fait mes recherches, j'avais appris qu'il faisait partie du ce qu'on appelle le New Progressive Party, en Corée du Sud, qui a été dissous depuis, mais qui a un parti qui en tout cas était écologique, féministe, etc., etc., et anticapitaliste, parce que quand on se regarde par exemple plus particulièrement la filmographie de Bong Joon-ho, on se rend compte que tous ces films parlent de lutte des classes, parlent de pollution industrielle, parlent d'élevage intensif avec Okja, on peut le voir comme ça. Donc c'est quelqu'un qui, comme tu le disais, place un propos politique et pour le coup pessimiste, tu le disais, dans tous ces films.
Exactement. En fait, on peut repartir plus particulièrement de ces films de 2003. Bong Joon-ho fait un thriller. C'est un thriller assez différent. Memories of Murder, excusez-moi. Ouais. C'est un thriller assez différent puisque il raconte pas forcément une histoire de serial killer classique. Il raconte surtout une histoire de serial killer qu'il a vécu puisque c'est la première affaire de tueur en série de l'histoire de la Corée du Sud. Et pour lui, donc il faut savoir que ce tueur en série ne sera jamais attrapé. Et pour lui, c'est avant tout la faillite de la société. Et pourquoi la faillite de la société ? Parce que cette société, dans les années 80, était incapable d'arrêter une personne comme ça, puisqu'elle était elle-même ignoble. Et tout au long du film, c'est ce qu'il essaye d'exprimer. Les figures d'autorité du film sont en faillite.
Bah c'est vrai que c'est un truc récurrent dans le cinéma coréen. La police et les politiques dans les films sont tous un petit peu à la ramasse, sont tous un petit peu idiots, sont tous un petit peu
rigolos, mais ils sont rigolos, mais ils sont incapables de faire correctement leur travail et ils amènent fatalement à des drames. Et Bong Joon-ho ne pense pas son cinéma en termes d'humain. C'est pas l'homme qui est en faillite, c'est vraiment le système que l'homme a mis en place qui est en faillite. Il fait pas une critique dans Memories of Murder, il ne fait pas une critique des deux policiers qui suivent, il fait une critique du système qui amène ces deux policiers à finalement rater leur boulot, quoi, attraper celui qui commet des actes atroces. Et pour Park Chan-wook, pour revenir à Old Boy, il y a une idée que c'est un homme lambda qui est enfermé pendant toutes les années horribles de la Corée, en sorte, puisqu'il est pendant toutes les années de dictature. Il est enfermé.
C'est vrai qu'il y a ce montage à la télé où on voit les
images, voilà, le temps qui défile. Et lui, voilà, il voit les évolutions de la Corée à travers un écran de télévision. C'est assez symptomatique. C'est-à-dire qu'il ne vit pas les événements, il est en dehors de tout, et il est lâché dans la nature, dans un monde qu'il ne comprend pas. C'est l'homme hors du temps. Et il n'est animé que par cette soif de vengeance, parce que c'est un homme du passé, c'est un homme de l'injustice, en fait.
Ouais.
Animé d'une violence et d'un seul but, c'est se venger. Et c'est cette vengeance qui va amener les événements du film et qui va montrer, finalement, est-ce que la vengeance est un système en soi ? Voilà. Donc, non, finalement, mais voilà, l'horreur, la violence, la vengeance. C'est-à-dire qu'on ressent dans leur cinéma une forme de colère. Mais c'est une bonne colère, parce que la colère anime leur cinéma. Mais en même temps, au lieu de s'enfermer dans cette colère et d'être un peu rabougri dans leur cinéma, ça leur permet de faire des films où ils amènent le plein potentiel du cinéma. Les films de Park Chan-wook et Bong Joon-ho, ce sont vraiment véritablement des films sommes. Ouais. On peut pas. Là, on a dit, parce qu'il fallait bien les classer, que c'était des thrillers, mais...
Oui, ils font bien plus que ça.
Le propre du cinéma coréen, c'est que... on ne peut pas dire d'un film, c'est un thriller. Est-ce que Parasite est un thriller ? Pas forcément, c'est une comédie sociale. Il y a des moments très drôles. C'est pareil dans Memories of Murder, il y a des moments très très drôles. Il y a des parties thrillers, il y a des parties films d'horreur. C'est le principe de cette nouvelle vague, c'est de faire un cinéma nouveau où tout est possible, tout est permis. Un cinéma comme le cinéma coréen ne peut pas exister ailleurs qu'en Corée, puisque en France, la première chose qu'on nous demande quand on fait un film, c'est quoi le pitch, c'est quoi le thème, c'est quoi le...
ce
qui accroche, est-ce que c'est une comédie, hein? Est-ce qu'on va voir une comédie sociale avec Christian Clavier, une comédie bourgeoise? Est-ce qu'on va voir un film d'auteur plus politique? Les Coréens, ils ont une espèce d'idée un peu anarchiste de dire fuck, on s'en fout, on fait tout à la fois, quoi. Et on va à fond, et puis ça gagne des prix, et puis ça fait des films formidables. Et c'est propre aussi des cinéastes qui vont qui font une nouvelle vague, en fait, une nouvelle forme de cinéma, c'est d'aller au fond des choses et de dire on fait fi des convenances, on va à fond, et puis voilà, on voit ce que ça donne, et souvent ça donne des choses pas mal quand même.
Et d'ailleurs tu me disais hors micro que cette génération là cette nouvelle vague coréenne s'inspirait quand même beaucoup du cinéma français, parce que quand tu me cites comme ça, comédie sociale, ce côté un
c'est
peu satirique,
disent, etc., d'ailleurs. Etc.
On pense à Chabrol, on pense à
Henri Verneuil, voilà. Même Clouseau. Ce sont des réalisateurs qui ont inspiré ces cinéastes-là.
Clouseau et Chabrol sont remerciés dans le discours de
la Palme d'Or.
Verneuil
est souvent cité par Park Chan-wook. Et voilà. Et donc, ce qui est un peu marrant pour les auditeurs qui seraient un peu cinéphiles, c'est que ce sont des cinéastes qui justement étaient critiqués par notre nouvelle vague à nous, qui disaient c'est le cinéma de papa, il faut faire autre chose. Il y a des gens que ça a influencé, et pour le mieux, quoi. En fait.
Et notamment ces réalisateurs-là. On se retrouve maintenant en 2019, 16 ans après, on va dire, cette éclosion de cette génération sud-coréenne sur la scène mondiale. Qu'est-ce qu'il en est de cette génération ? Qu'est-ce qu'il en est de ces cinéastes ? Quel est un peu l'état des lieux, peut-être, du cinéma sud-coréen 16 ans après, Raphaël ?
On va le dire les choses clairement. Le cinéma coréen est aujourd'hui quand même respecté dans le monde entier. Les films de Park Chan-wook et Bong Joon-ho sont toujours sélectionnés dans des festivals prestigieux. Le dernier film de Park Chan-wook, Mademoiselle, était sélectionné au Festival de Cannes. Magnifique. Il a fait grand bruit, c'était un très très beau film. Bong Joon-ho vient de gagner la Palme d'Or. Bong Joon-ho, quand même, il faut le dire aux auditeurs, l'année, il y a deux ans, il était en compétition avec Okja. C'est le premier film Netflix à avoir sélectionné. Et c'est celui qui a créé la polémique.
Bien sûr.
Et finalement, il fait un peu la nique à ces gens bien pensants qui disent « Ouais, le cinéma, c'est au cinéma. » Il n'a pas avec Okja. Et deux ans après, voilà, il leur dit « Mais merde, voilà, je fais du cinéma. » Et puis, ah, tiens,
je
gagne la Palme d'Or. C'est étrange. Donc voilà.
Est-ce que ça a donné des petits parce que là on parle d'une génération qui a maintenant quoi 50 balais.
Ouais.
Est-ce qu'il y a des nouveaux cinéastes qui sont arrivés dans le sillon de ces qui ont pris naissance. Moi je pense à Na Hong-jin avec The Chaser, The Murderer, qui sont deux films
et The Stranger.
Et The Stranger que je n'ai pas vu malheureusement.
Écoute,
mais en tout cas il y a un cinéaste Na Hong-jin qui était assez saisissant, assez fou.
Exactement, c'est-à-dire que je pense que Na Hong-jin il fait bien la synthèse entre les deux, entre Park Chan-wook et entre Bong Joon-ho, c'est-à-dire que Il est dans cette espèce d'extrémisme de Park Chan-wook de dire « Bon, je vais dans des zones un peu inconfortables pour le spectateur. » Et en même temps, il est dans cette maestria absolue de Bong Joon-ho de dire « Voilà, je vais montrer des choses qui n'ont pas été vues. » Et donc, Na Hong-jin, il est allé à Cannes pour The Stranger. Et il est allé à Cannes aussi pour The Murderer. Il n'a pas gagné de prix encore très prestigieux. Bien que je crois que The Chaser a eu un prêt à Cognac, faudra vérifier, mais je crois qu'il a eu un prêt à Cognac.
Ce serait pas étonnant.
Mais voilà, c'est un cinéaste forcément qui va compter et qui compte déjà en Corée. C'est un cinéaste qui est important et qui fait des entrées en France. Donc voilà. Moi, je peux aussi citer récemment Ryu Sung-won. Qui a fait un film extraordinaire, qui est sorti en France, mais qui a fait très peu d'entrées, donc je vous invite à l'acheter en DVD. Son film s'appelle Battleship Island, et il raconte l'histoire de ce camp de concentration japonais, les Japonais en fait enlevaient des Coréens pour travailler dans une île une île minière, et c'est l'histoire de leur révolte, et c'est encore un film important qui n'a pas eu la visibilité en fait méritée, mais c'est encore une fois il y a une maestria, et tout le temps il y a ce genre de pépites qui pop comme ça, et Kim Ji-woon aussi, Kim Ji-woon c'est différent parce qu'il est de la même génération, il est cité comme faisant partie de cette nouvelle vague, donc lui c'est pas un petit, mais il a fait par exemple I Met the Devil, qui est un film absolument fou, fou furieux. C'est un Tom et Jerry hardcore. C'est un tueur en série qui a le malheur d'assassiner la petite amie d'un agent des services secrets sud-coréen, et cet agent sud-coréen décide de lui foutre la misère pendant 2 heures. Donc c'est un film très dur à voir, mais d'une maestria folle, encore une fois. Donc
on peut peut-être remercier pour doucement conclure que ces films coréens là arrivent en France grâce à des distributeurs qui croient en eux.
Joker,
Wildside,
Carlotta
effectivement, qui sont des distributeurs français qui décident de prendre ces films coréens et nous les montrer, et merci à eux.
Merci,
en tout cas, si ils nous
merci
écoutent.
Infiniment
Raphaël est très... Merci Raphaël de nous avoir fait ce petit voyage à travers le cinéma sud-coréen, donc tout sur cette année 2003 qui aura vu deux films sublimes, Memories of Murder de Bong Joon-ho et Old Boy de Park Chan-wook arrivé sur les écrans. Pour terminer ce thème numéro 2 et avant d'enchaîner sur notre dernier thème de l'émission, j'aimerais simplement vous recommander quelque chose en particulier, qui est que en Corée il y a la Corée du Sud bien sûr, mais il y a aussi la Corée du Nord.
Non.
Et si vous êtes
incroyable
et si vous êtes curieux des films de Corée du Nord, sachez que vous pouvez les voir, car il y a un coffret Wildside qui s'appelle Regards sur le cinéma nord-coréen, qui promet 4 films, 4 visions. Moi, je les ai vus, ces 4 films, et c'est vrai que c'est assez étonnant, parce que le cinéma nord-coréen, on ne sait pas trop à quoi ça tend.
À part les films d'animation qui sont célèbres dans le monde entier.
Voilà, mais ce cinéma nord-coréen, il a plein d'intérêt, parce que c'est un cinéma qui est techniquement assez phénoménal. C'est très très beau, c'est très très bien fait, c'est très très bien éclairé, c'est vraiment assez impressionnant. Par contre, c'est toujours un petit peu daté, c'est-à-dire qu'un film des années 80, ressemblera à un film des années 50 et un film des années 2000 ressemblera à un film des années 80. Mais en tout cas, ça vaut le coup. Donc, Deuil. Donc, si vous êtes curieux de cette autre partie de Corée, de cinéma de la Corée du Nord, sachez qu'il y a donc ce coffret Wildside. Regard sur le cinéma nord-coréen. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose pour terminer, Raphaël ?
Écoutez, oui, une petite recommandation, je pense. En ce moment, sur OCS, vous pouvez découvrir le documentaire sur l'anniversaire des 15 ans de Memories of Murder. Il y a de très belles anecdotes. Et ils sont allés trouver toutes les personnes qui ont collaboré sur ce film extraordinaire. Donc, si vous êtes abonné au CS, n'hésitez pas à le regarder. Donc, Memories. Et si vous ne l'êtes pas, profitez du mois gratuit pour aller le voir, si ça vous intéresse.
Ben, merci beaucoup, Raphaël, pour ce petit heads-up, pour cette petite recommandation. Et voilà qu'il nous lance merveilleusement vers le troisième thème de cette émission. Un peu de piano joué par un jeune homme, un jeune adolescent, une musique céleste, une musique magnifique, pourtant jouée par un meurtrier, un futur meurtrier, un futur tueur, puisque ce morceau de piano est issu d'une scène du film Elephant de Gus Van Sant, Palme d'Or en 2003, qui s'inspire de la tuerie du lycée Columbine, qui s'est passée le 20 avril 1999. Et qui a fait 15 morts et 24 blessés. Et pourquoi on parle de Elephant de Gus Van Sant ? Déjà parce que c'est un film magnifique, donc si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller le voir. Il est fait effectivement par Gus Van Sant, qui est un réalisateur qui est forcément passionnant, forcément intriguant, forcément intéressant. Encore une fois, si vous ne connaissez pas ce réalisateur, c'est quelqu'un qui a fait Will Hunting, qui a fait le remake de Psycho, qui a fait des films comme Jerry, qui a fait récemment... Il a fait quoi récemment ? Ouais, il a fait Harvey Milk.
Harvey Milk.
Bref, sa filmographie est longue. C'est lui qui a My Own Private Idaho, Malanoche, bref, plein de films qui s'étalent comme ça sur plusieurs décennies de cinéma. Et Elephant, donc, sur cette tuerie de Columbine, est un projet et un film atypique, puisque c'est un film qui va être entièrement peuplé de non-acteurs, on va dire. T'as pas d'acteurs professionnels, et va avoir une approche particulièrement minimaliste. De le fait de longs plans séquences. Pour vous donner une idée, il n'y a que 88 plans dans le film. Pour un film qui fait 1h21, ça vous donne un petit peu le sens du rythme, le ton du film qui vous est proposé. Je trouve que c'est le premier film, en tout cas le premier film qui va parler de la violence inhérente des États-Unis et qui est pour moi le premier film qui va parler de l'Amérique, de ce qu'est l'Amérique, de ce que va être les États-Unis après le 11 septembre. Parce que le 11 septembre, effectivement, en 2003, au cinéma en tout cas. Quand Elephant reçoit la Palme d'Or en mai 2003, c'est 18 mois après le 11 septembre.
C'est encore une plébéante, faut le dire.
Et c'est encore effectivement une plébéante. Donc, ce qui est assez amusant d'ailleurs, c'est que quand on regarde comment le cinéma a géré, comment l'industrie hollywoodienne a géré le 11 septembre, il y a eu plusieurs étapes. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu une première étape de « on va masquer tout ». On va tout cacher, on va tout couper. On se souvient des scènes de Spider-Man où il y avait le World Trade Center, on les a enlevées. On se souvient des scènes de Men in Black 2 où il y avait le World Trade Center, on les a enlevées. On a les génériques de séries télé, les Sopranos, on enlève le World Trade Center. La première réaction a été une réaction de masquage, d'effacement de cette réalité-là véritablement, avant, et on en parlera plus tard dans le thème, que l'industrie digère l'événement, le traumatisme.
Et se replie sur soi, sur des histoires intérieures.
Exactement, et en parle. Et ce qui est intéressant, c'est que Elephant arrive en 2003, parle de la tuerie de Columbine. Du coup, entre guillemets, il est un peu tard par rapport à la tuerie de Columbine, puisqu'il arrive 4 ans après. Mais du coup, il arrive tôt par rapport au 11 septembre. Et il devient un objet pertinent et intéressant, parce qu'il parle du coup de cette violence inhérente aux États-Unis, du fait qu'on peut avoir des accès aux armes, etc. etc. D'ailleurs, il s'appelle Elephant, et c'est un peu, effectivement, dont on va parler de The Elephant in the Room, l'éléphant dans la pièce, c'est-à-dire qu'on parle du problème qui est là et qui est tabou et qu'on n'évoque pas aux États-Unis, qui est que s'il y a autant de morts, autant de violence aux États-Unis, c'est que tout simplement il y a les armes.
C'est facile de se procurer des armes.
Donc, Elephant parle du coup de ce nouveau traumatisme américain, ce terrorisme intérieur, cet ennemi intérieur, parce que la tuerie de Columbine, c'est deux adolescents américains avec des armes américaines qui vont du coup faire un massacre, et même que le 11 septembre, ce sont des vols intérieurs.
Des gens qui se sont formés à l'intérieur des États-Unis.
Exactement. Et les fans, en tout cas, met à jour, comme tu disais, cette plébéante qui est cette violence.
Pour moi, le premier film qui lance cette vague d'introspection est encore un film qui parle de la tuerie de Columbine. Pour moi, c'est Bowling for Columbine de Michael Moore, qui est le film qui le révèle aux yeux du monde. quand même.
Donc le documentaire.
Le documentaire sur la tuerie de Columbine. Et c'est ce film-là qui engendre par la suite, qui métastase cette idée de l'ennemi intérieur. Et finalement,
donc le même sujet qu'Elephant.
Le même sujet qu'Elephant. Et qui désacralise un peu ce rêve américain, puisque finalement, cette tuerie de Columbine, comme c'est très très bien montré dans le film Elephant, c'est surtout l'écho d'une jeunesse désabusée, en fait, d'une jeunesse qui s'ennuie, qui ne sait pas où aller, comment y aller. Enfin, c'est la fin du rêve américain, quoi, profondément. Et c'est ce que symbolise aussi, finalement, le 11 septembre. C'est-à-dire qu'au final, le 11 septembre, c'est la preuve ultime que l'Amérique n'est pas toute puissante et qu'elle peut être frappée en son sein par n'importe qui, par des gens qui ne sont peut-être pas américains, mais qui viennent de l'intérieur pour frapper directement au cœur les États-Unis. Mmh. Et c'est cette idée-là, c'est de voir des jeunes complètement désabusés, qui ne savent pas où aller, qui ne savent pas comment y aller. Et en fait, la société ne leur propose pas une alternative crédible à leur vie de personnes désabusées.
Oui, parce qu'on voit les jeunes qui organisent la tuerie. Bon, là, on a eu l'extrait sonore, effectivement. C'est pas des monstres, ça va être... Ils jouent du piano, ils lisent des livres.
Adolescents lambda,
ils,
quoi.
Ils se socialisent, etc., ouais. etc. Effectivement, bah, dans le film, t'as ces scènes où c'est les futurs tueurs s'organisent, ont leur vie, ils jouent au piano, ils ont une vie d'adolescent, on va dire lambda. Et on va avoir de l'autre côté les victimes, entre guillemets, qui, eux, comme tu disais, vivent dans une sorte... Ils sont jeunes, mais ils ont une sorte d'indifférence.
Ils sont dans le move.
Voilà, ils flottent. Subitement, il y a cette violence qui arrive.
En fait, ce qui est bien fait dans le film, c'est que la violence est indissociable du caractère humain des deux personnages qui commettent la violence. Parce que c'est une tuerie aveugle sans être aveugle. C'est-à-dire qu'ils vont croiser des jeunes avant d'entrer dans le lycée.
Bien sûr.
Et il y a cette scène terrible. Un des jeunes qu'on suit le plus, c'est un petit blondinet qui est sur l'affiche. Il sort du lycée au moment où ils vont rentrer. Et il va leur dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez? Et leur réflexe, ils pourraient lui tirer dessus. Ils sont armés. Ils vont commettre des choses.
Avec les sacs dans lesquels ils ont les armes.
Voilà, ils ont les armes. Et ils vont lui dire, mec, reste pas là, ça va chier. Et voilà, et oui. Du coup, il y a cette part d'humanité, elle est complète, enfin, ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où ils passent la porte du lycée, il y a un switch, et voilà, et qui est expliqué dans le film par voilà, cette génération de personnes qui ne savent pas si la société est faite pour eux.
D'ailleurs, la réalisation de Wes Anderson te marque bien ça, parce que c'est une réalisation du coup tout en plan séquence où les élèves effectivement se croisent, on en suit un, puis on en rencontre un autre, on lâche le premier, on va suivre le deuxième, on rentre dans des pièces, on s'arrête sur des moments, et puis on laisse passer le temps, on a cette notion de permanence du temps qui met en place effectivement aussi ce fameux ultimatum, ce compte à rebours, hein, donc c'est une logique de mise en scène importante.
Et c'est un film surtout qui s'attache aux petits moments de la vie des adolescents. C'est-à-dire qu'on voit des petites choses, on les voit dans leur lycée faire des non-événements. En fait, c'est pas un film qui s'attarde sur l'événement. C'est un film sur le non-événement, sur les petites choses. Parce que, en fait, pour bien comprendre comment se construisent les personnages, il faut les voir dans leur vie de tous les jours et comment le drame va arrêter net des choses pour tout le monde, en fait.
Ouais.
Parce que c'est un drame absolu, puisque ce sont des jeunes qui
vont les tuer. Des premiers amours, des photos qui sont à développer,
exactement.
Des choses comme ça.
Des petites choses
qui vont être arrêtées net par l'événement.
Voilà. Et finalement, les gens qui commettent ces horreurs sont des criminels et arrêtent leur vie à ce moment-là.
Ouais.
Et ils vont arrêter la vie d'autres personnes qui sont finalement très proches d'eux, au final.
Ça rentre dans cette logique d'un portrait de l'adolescence. On va avoir l'adolescent qui va faire du piano, on va avoir l'adolescent qui socialise, on va avoir l'adolescent qui joue aux jeux vidéo parce que c'est un adolescent.
C'est un adolescent.
Et parce que, voilà. Et que pour le coup, il nous dit, les enfants nous disent, regarde, il joue aux jeux vidéo, et il joue au piano, et il joue à plein de choses, et il fait plein de choses, c'est un être humain.
Et puis c'est une chose qui revient systématiquement, quand il y a une tuerie aux États-Unis, il y a une partie de la population qui dit, il y a des armes en libre-service, donc fatalement des gens qui sont un peu instables s'en servent.
Bien sûr.
Et il y a d'autres personnes qui, pour dédouaner les armes, parlent de l'humain, disent, bon, ce sont des gens défaillants, et puis en plus ils jouent aux jeux vidéo. Puisque fatalement, un jeune joue toujours aux jeux vidéo.
Bien sûr.
Et donc, ça les rend mauvais.
Et donc, ce film, effectivement, arrive en 2003, parle à la fois donc, du coup, du sujet qu'il traite, la tuerie de Columbine, et fait écho, un écho violent et un écho proche au 11 septembre qui est arrivé 18 mois plus tôt. C'est assez amusant comment effectivement le Hollywood a géré ce 11 septembre, parce que le 11 septembre va opérer un changement de ton complet dans notamment les blockbusters américains, parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais dans les années 90, le blockbuster américain type, ça va être Armageddon, ça va être ces films Independence Day, ces films qui vont être effectivement catastrophes où il se passe des choses horribles,
et mais patriotiques aussi surtout,
mais qui vont être effectivement solaires, patriotiques. Il va y avoir des petites blagues, il va y avoir effectivement des personnages un peu cocasses. On pense à Bruce Willis qui fait des blagues, qui protège sa fille, qui sacrifie à la fin. Independence Day, on sauve le chien. Donc il y a ce côté un peu voilà, solaire et joyeux. Et même si des gens meurent, ça reste un blockbuster un peu yeux, etc., etc.
Independence Day aussi, pareil. Voilà. C'est la collaboration ultime des Américains entre eux pour arriver à un but commun.
Exactement. Et en fait, après le 11 septembre, on arrive effectivement à partir de 2004-2005 et dans les 10 ans qui vont suivre, à une autre forme de blockbuster. Les blockbusters vont être tout de suite un petit peu gris, plus dépressifs, plus pessimistes. On va avoir droit à La Guerre des Mondes de Steven Spielberg, on va avoir droit à Batman Begins et au Dark Knight de Nolan, avec le Dark Knight qui est quand même assez, assez symptomatique, puisque c'est quand même avec un Joker qui est l'archétype même de ce méchant des années 2000. C'est-à-dire qu'avant, effectivement, dans les années 90, les méchants c'était soit les Russes, soit les Iraniens, soit l'autre. Là, effectivement, dans ces blockbusters-là, les méchants vont être des gens qui sont américains, des Américains, puis des gens qui veulent le chaos, comme le Joker dans The Dark Knight, des gens qui n'ont pas forcément, qui ont parfois des revendications, mais qui n'ont pas forcément des revendications très, très certaines, très, très ciblées. En tout cas, des gens insaisissables et qui sont parmi nous, qui nous ressemblent. Et ça, c'est assez intéressant.
On le voit bien dans La Guerre des Mondes, la scène où Tom Cruise est le plus en danger, finalement, c'est quand il se réfugie dans une maison avec quelqu'un qui est déjà dans cette maison et finalement qui est très dangereux, et c'est l'ennemi de l'intérieur toujours.
Et puis surtout, ce qui est effectivement amusant à La Guerre des Mondes, c'est que les extraterrestres, ils sont déjà là. Les extraterrestres, ils sont dans le sol.
Ils sont sous le sol.
Ils sont sous le sol, ils sont dans l'Amérique, ils sont en souterrain de l'Amérique et ils sortent de terre, effectivement. Donc le 11 septembre va avoir un impact assez saisissant. Effectivement, après une période de on cache tout, on montre rien de cette catastrophe-là, le cinéma va le digérer et va nous sortir une décennie que moi je trouve assez fascinante en termes de cinéma. Une nouvelle tonalité comme ça à travers le blockbuster américain qui vous montre que effectivement les États-Unis sont marqués. Je trouve personnellement que cette époque est un peu révolue, parce qu'effectivement maintenant avec notamment, on en parlait au début avec Marvel a de nouveau remis une nouvelle teinte sur le blockbuster un peu de manière générale, et puis en tout cas cette vision pessimiste et grise qu'on pouvait voir dans les années 2000 va encore une fois changer. On est retrouvé, je pense, dans quelque chose de plus conservateur en termes de
classique,
plus classique, voilà,
avec policé. Après le film d'auteur américain traite l'Amérique de Trump aussi, voilà, commence à investir justement ce cinéma politisé, et c'est toujours de là que ça part. Je pense que le plus intéressant, ça sera de voir le post-Trump, pour voir ce que le cinéma grand public va proposer pour traiter de ces années-là, quoi.
Trump, ça
va
être le traumatisme Trump après le traumatisme du 11 septembre.
Voilà. C'est ce qu'il y a de beau aux États-Unis et surtout dans le cinéma américain, c'est qu'ils arrivent très bien à digérer des grandes périodes et à proposer une analyse quasi instantanée des périodes dans lesquelles ils vivent. Donc, les films du Vietnam sortaient pendant le Vietnam, des films extraordinaires. Et ainsi de suite, le post 11 septembre, donc quasi instantané.
Oui, et puis après, c'est aussi. Là, on dit post 11 septembre, mais effectivement, Elephant arrive la même année qu'on a parlé au début de la guerre en Irak. Donc, c'est effectivement les années 2000 aux États-Unis, c'est une année assez tumultueuse. Comme tu le disais, c'est une industrie qui digère.
Qui digère bien son histoire, sa propre histoire. C'est intéressant.
Qui produit très très vite, effectivement. Comme quoi, l'appel de l'argent.
L'argent appelle toujours une introspection formidable.
Voilà qui conclut parfaitement ce thème, donc, sur le film Elephant de Gus Van Sant, qui est effectivement peut-être l'un des premiers films américains à évoquer en creux, ou en tout cas à faire écho à ce 11 septembre 2001. Peut-être qu'il va lancer encore une fois une nouvelle phase dans le cinéma américain, comme on en a parlé. Bref, voilà qui conclut parfaitement ce troisième et dernier thème de cette émission. Et comme à l'accoutumée, on va terminer par un petit tour du monde. Et le tour du monde, comme d'habitude, c'est l'occasion de parler de films qui nous tiennent à cœur, mais qu'on n'a pas eu le temps forcément d'évoquer pendant l'émission. Le premier film que j'avais envie simplement d'évoquer, en tout cas de discuter pendant une petite minute dans ce tour du monde, de mon côté, ça va être Master and Commander de Peter Weir, avec Paul Bettany et avec surtout Russell Crowe. Pourquoi je le recommande? Tout simplement parce que c'est un film de Peter Weir, et Peter Weir est l'un des plus grands réalisateurs de l'histoire du monde. C'est un réalisateur qui est peu connu parce que peu médiatisé.
En fait, tout le monde connaît ses films,
voilà,
plus que lui.
Voilà, c'est quelqu'un qui a réalisé quand même, pour les films les plus connus, de Truman Show, qui a réalisé Le Cercle des Poètes Disparus.
Mosquito Coast.
Mosquito Coast, qui a réalisé Witness, qui est un film magnifique, encore une fois, avec Harrison Ford, et qui a réalisé un film... qui a réalisé un film qui est sublime, qui s'appelle Gallipoli, avec Mel Gibson. Bref, un réalisateur australien qui fait des films sublimes, et qui fait donc en 2003 Master and Commander avec Russell Crowe et Paul Bettany, et qui est l'histoire... en 1805, d'un capitaine de vaisseau anglais qui va se retrouver à la lutte avec un vaisseau français en plein milieu du Pacifique. Et cette lutte, on va dire, entre deux vaisseaux, au moment où on est en guerre napoléonienne et où les deux pays se tirent un petit peu la bourre pour conquérir le monde, va frôler, on va dire, l'obsession pour ce capitaine qui s'appelle Jack Aubrey. Et on va le suivre, du coup, dans cette bataille à travers le Pacifique. Mais ce qui est intéressant dans ce film... Ce n'est pas forcément son aspect guerrier, puisque c'est un film de guerre navale.
Même si il est extrêmement impressionnant,
oui,
faut le dire.
Enfin, les scènes de guerre navale sont extrêmement impressionnantes. Mais c'est surtout aussi un grand film d'aventure, comme on en a, je trouve, pas beaucoup au cinéma, et même plus beaucoup de nos jours. Donc on a des images à couper le souffle, et surtout on a cette dimension humaine qui est assez folle, et qui passe notamment par l'équipage, parce que l'équipage, ils ont des vraies gueules, ils ont des vrais visages, on les suit, on est avec eux dans la cabine, on est avec eux dans les combats qui sont effectivement impressionnants, et on suit notamment un docteur qui s'appelle Stephen Maturin, qui va être le précurseur de Darwin, et qui va, dans le film, on va avoir ces parenthèses où le film va nous emmener sur l'île des Galapagos, où on va découvrir de nouvelles espèces, où on est encore une fois, voilà, on est au début du 19e siècle, donc on est à cette époque où, en même temps qu'on découvre le monde, on découvre de quoi il est fait, de quoi il est rempli, animaux, plantes, etc. Donc ce film est assez ébouriffant, parce que c'est un grand film d'aventure, un grand film naval, et je pense que c'est quand même, à mon sens, l'un des grands film, peut-être le dernier grand film naval du cinéma.
Naval, c'est sûr.
Naval, c'est sûr, parce que récemment, en tout cas dans les 15 ans, je vois pas de grands films navals.
Les Pirates des Caraïbes, mais là, ça sent plus le fake qu'autre chose.
Voilà, effectivement. Mais en tout cas, c'est un film qui a une lumière, qui a une photo magnifique, qui, pour le coup, nous envoie un vent d'air frais marin dans la tête, et que je recommande à tout le monde. Donc voilà, Master and Commander de Peter Weir. Toi, Raphaël, tu m'as parlé de quelque chose dont tu aimerais parler dans ce tour du monde en particulier.
On va repartir du côté de l'Asie. Je ne vais pas m'attarder forcément sur un seul film, mais je vais parler plutôt de l'année d'un réalisateur. Et ce réalisateur est plutôt connu, donc je pense que ça va être plutôt facile pour tout le monde de voir de qui je vais parler. Je veux bien sûr parler de Hayao Miyazaki, qui, dans cette année 2003, est une année... extrêmement importante pour lui, puisque c'est...
Donc Hayao Miyazaki, réalisateur effectivement de Mon Voisin Totoro, de Porco Rosso,
Chihiro, Le Château dans le Ciel, Le Château ambulant, Le Vent se lève,
voilà,
La Princesse Mononoke.
On le présente, mais on a bien sûr plus besoin de le présenter.
C'est superflu de le présenter aujourd'hui,
voilà.
Évidemment.
Mais on le fait quand même, parce que
mais
on est professionnel.
Voilà, mais... 2003, c'est une année charnière pour lui, puisque c'est un peu une année... De la consécration notamment aux États-Unis, puisqu'il va gagner l'Oscar du meilleur film d'animation pour Le Voyage de Chihiro, qui est le seul Oscar du meilleur film d'animation jamais reçu par un étranger autre qu'un Américain. Voilà.
Qui en dit long sur cette catégorie des Oscars d'animation.
À l'époque, pour replacer dans le contexte, c'est le deuxième Oscar de l'animation qui est donné. Il y en avait eu un en 2002.
Pour Shrek,
voilà. Et après, donc Le Voyage de Chihiro. On voit
le
gap énorme entre les deux.
Donc ça, cet Oscar-là en 2003, donc,
Pour Le Voyage de Chihiro, c'est la consécration pour Hayao Miyazaki dans le monde entier. Finalement, ça ne fait que parachever son œuvre, puisqu'il avait déjà reçu l'Ours d'Or pour ce même film à Berlin en 2002. Et il a extrêmement bien marché à peu près partout, et il lui manquait en fait que les États-Unis pour parachever son tour du monde de l'épicness du plus grand réalisateur de l'animation japonaise de tous les temps, quoi, en fait. Et c'est ce qui arrive, toute cette consécration va amener la ressortie de ses vieux films au cinéma. Et je tiens à revenir quand même sur un très grand film d'Hayao Miyazaki qui est ressorti donc en 2003, début d'année, en janvier 2003, en France. C'est Le Château dans le Ciel, qui est un de ses plus grands chefs-d'œuvre, qui est considéré comme étant un des plus grands film d'animation japonais de tous les temps.
Et qui du coup ressort également en 2003 dans les salles françaises.
Voilà. En fait,
sous l'impulsion de l'Oscar ou...
En fait, non, puisque c'est antérieur, mais, c'est surtout Chihiro. Chihiro qui, on va le dire, a fait plus de 1 400 000 entrées. Je crois en France, rien qu'en France.
Oui, ce qui est quand même pas mal.
Ce qui est énorme. Aujourd'hui, bon, ce sont des scores dont beaucoup de gens rêvent. Et du coup, cette consécration de Chihiro amène la ressortie de classiques au Japon de Miyazaki. Enfin, au Japon, est quelqu'un de déjà établi. Enfin, c'est déjà une sommité. Et ces films ressortent en France. Et donc, le premier d'entre eux, c'est Le Château dans le Ciel, qui est un film extraordinaire. Et pour resituer, donc, il est sorti au Japon le 2 août 86.
Ah oui, donc.
Donc il y a 20... très 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 longtemps.
Extrêmement longtemps.
Et en fait, je pense que je mets au défi quiconque de voir ce film, surtout à l'époque, et de dire que c'est un film de 1986. C'est-à-dire qu'on le met à côté de La Petite Sirène, qui, je le rappelle, est sorti en 89. c'est dur pour Disney. D'ailleurs, Disney ne se trompe pas, puisque ce sont les distributeurs maintenant automatiques de Miyazaki en France et dans le monde.
Buena Vista.
Buena Vista, en tout cas, voilà, une filiale de Disney. Mais voilà, donc j'invite les gens à absolument re-regarder donc Chihiro d'abord et Le Château dans le Ciel ensuite, qui sont deux films extraordinaires. Je sais pas si tu veux en dire des...
Non, mais en plus, pour compléter cette année effectivement où l'animation est à l'honneur et Hayao Miyazaki est à l'honneur en 2003, en 2003 c'est aussi une année d'animation assez folle, parce que à côté il y a Le Monde de Nemo qui sort également en 2003, il y a Les Triplettes de Belleville de Sylvain Chomet qui sort également en 2003. Mais 2003, c'est en plus de ces films d'animation, il y a également Lost in Translation qui sort, il y a Love Actually qui sort, il y a Dogville qui sort, il y a 21 grammes d'Inaritu, il y a Les Invasions Barbares de Denis Arcand, il y a Big Fish de Tim Burton, on va avoir Haute Tension d'Alexandre Aja, Un Frère Cohen, Intolérable Cruauté, on a X-Men 2, Daredevil, Hulk, Terminator 3, c'est encore
Des films de super-héros.
Déjà des films de super-héros en 2003. Zatoichi de Takeshi Kitano, L'Esquive de Keshish, Swimming Pool de François Ozon, bref, énormément de films en 2003 qu'on n'a pas forcément.
Bonne année.
Mais
bonne
on se rend compte dans cette émission que, en fait, mine de rien, toutes les années sont un peu des bonnes années, parce que finalement, quand on prend le temps de regarder.
C'est parce que tu as eu de la chance au tirage pour l'instant.
C'est un peu ce que j'aime faire avec l'émission, c'est que quand on prend le temps de regarder chaque année, en fait, chaque année on a des films magnifiques. On arrive à la conclusion de cet épisode, on arrive à la conclusion de cette émission. Avant de se quitter, j'ai simplement envie de vous dire que si vous avez aimé cet épisode, et je ne le fais jamais, on me reproche de ne pas le faire, mais du coup je le fais maintenant. Si vous avez aimé cet épisode, et n'hésitez pas à le partager, à commenter, à dire que vous avez aimé cet épisode et dire que vous aimez Année Lumière, en tout cas.
Mettez les étoiles sur iTunes, voilà, pour référencement.
Je vois beaucoup de messages assez cool, assez chaleureux qui me disent que je fais une émission qui est sympa et ça me fait plaisir. En tout cas, les retours que j'ai sont merveilleux et je vous remercie en tout cas de les faire et de m'écouter. Donc, on a parlé plein de choses dans cet épisode 4 d'Année Lumière. Cette année 2003, on a parlé de Matrix, de Pirates des Caraïbes, on a parlé du Seigneur des Anneaux, on a parlé de Kill Bill. On est allé du côté de la Corée du Sud où on a parlé de cette nouvelle génération avec Bong Joon-ho, Park Chan-wook, etc., etc. Et on a parlé du film Elephant de Gus Van Sant. Bref, une année riche en émotions. Et comme d'habitude, je vais laisser l'invité du jour, Raphaël, tirer au hasard l'année dont on va parler dans l'épisode prochain d'Année Lumière. Donc Raphaël, tu as devant toi un générateur de nombres aléatoires.
Je confirme.
Tu confirmes.
Oui, je confirme.
Et je vais te laisser effectivement tirer cette année et nous dire de quoi va parler le prochain épisode d'Année Lumière.
Alors, roulement de tambour. 1985.
Donc on se retrouve dans les années 80.
Nom de Zeus.
Directement, on pense 85, on pense retour vers le futur. Une année qui est directement comme ça, tout de suite, très très cool à faire. Bah écoute, j'ai hâte de m'y mettre. Merci Raphaël d'avoir tiré ça au sort.
Merci à vous.
Il me reste plus qu'à vous dire au revoir, à vous remercier de nous avoir écoutés, d'avoir écouté cet épisode d'Année Lumière. Merci à vous, merci à toi encore Raphaël d'avoir accepté mon invitation.
Merci à toi Thibaut de m'avoir invité.
Il me reste plus qu'à vous donner rendez-vous très très vite pour un prochain épisode d'Année Lumière. Merci beaucoup.
Merci.
Salut.